transformation économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et oui, après avoir parlé plantes, on va parler économie aujourd'hui avec le prof Patrick. Bonjour, prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi avez-vous prévu de nous parler?
On ne parle pas d'économie en fait.
Ah mince, je me suis raté.
J'avais décidé de ne pas parler d'actualité, j'avais décidé de parler d'un philosophe des sciences, Bruno Latour. Et j'avais écrit ma chronique dimanche matin pour inciter les gens à lire Bruno Latour. Et j'ai eu, le hasard fait tristement les choses, j'ai eu la triste nouvelle d'apprendre que dimanche soir, il est décédé d'un cancer. Donc c'est un hommage à Bruno Latour, en quelque sorte, que je vais faire dans cette chronique. C'est un philosophe des sciences, Bruno Latour, qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis. Je l'ai connu personnellement à la fin des années 80 en lisant une autre philosophe des sciences, Isabelle Stengers, qui est une sorte de sœur d'âme de Bruno Latour. Bruno Latour, c'est quelqu'un qui énerve beaucoup de monde. Il énerve certains scientifiques, il énerve les gauchistes radicaux, genre Frédéric Lordon, il énerve certains sociologues, genre Pierre Bourdieu. Pour le reste, il est surtout ignoré du grand public. Voilà. Il a commencé déjà par énerver les scientifiques à partir des années 70 quand il a publié divers articles et livres sur la pratique concrète des scientifiques. Il a séjourné ainsi dans un grand laboratoire scientifique en Californie et il a observé le travail quotidien des scientifiques comme un éthologue observerait le comportement des bonobos. Ça a donné un livre qui s'appelle La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques, sorti en 1979 et écrit avec Steve Woolgar, où il nous fait comprendre que la science ne consiste pas à faire des, entre guillemets, découvertes scientifiques, sorte de moments miraculeux, un peu divins, vision naïve de la science, qui flatte quand même l'ego des scientifiques. Non, non, la science, c'est la construction lente et minutieuse de fiction, et le travail pour faire accepter cette fiction par ses pairs, à travers un processus critique rigoureux, voire impitoyable, attention. Certains scientifiques ont hurlé au relativisme, c'est un scandale, etc. Bon, c'est la preuve qu'ils n'avaient pas compris ou pas lu Bruno Latour, parce que ça n'a rien à voir avec du relativisme. C'est de la sociologie, en fait. Certains ont donc caricaturé Bruno Latour. Ainsi, en 1997, est sorti un livre qui s'appelle « Impostures intellectuelles », écrit par deux physiciens, Alain Sokal et Jean Bricmont, dans laquelle ils se moquent de ce qu'ils appellent la pensée postmoderne. Donc ils se moquent de Jacques Lacan, Julia Kristeva, Lucie Rigaret, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari et Paul Virilio. Seul problème, c'est que Bruno Latour n'a rien à foutre dans cette liste-là. Il n'est pas postmoderne et son travail n'a rien à voir. Donc c'était de la mauvaise foi éhontée. Bref, certains scientifiques détestent qu'on conteste leur prétention à l'hégémonie en matière de vérité. Mais c'est pas grave. Hein, les chiens aboient, Bruno Latour passe. Et il passe à quoi? Eh bien, il passe au livre qu'il sort en 91, « Nous n'avons jamais été modernes ». Être moderne, c'est quoi? C'est fonder sa vision du monde sur la séparation nature-culture, la stricte séparation. Ce qui est aussi un appel à exploiter la nature au maximum, c'est ce qu'a fait l'Europe à la Renaissance, exploitation maximum de la nature. Ce que Bruno Latour explique dans son livre, c'est qu'en fait, nous, Européens, on n'a jamais vraiment respecté cette séparation nature-culture. Parce qu'on vit en symbiose permanente avec ce qu'il appelle des hybrides. Les hybrides, c'est par exemple la pollution des rivières, les embryons congelés, le virus du sida, le trou dans la couche d'ozone, les robots connectés, les objets connectés, etc., etc. Des innovations, ou leurs conséquences, qui entremêlent le vivant et l'humain et qui nous transforment nous-mêmes. Bon, je l'avoue, c'est pas un livre forcément facile à lire, d'accord.
Ouais, ça a l'air important.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce cheminement intellectuel va peu à peu amener Bruno Latour vers la grande question de notre ère, la question écologique. Et c'est ainsi qu'en 1999, il sort un ouvrage qui s'appelle « Politique de la nature, comment faire entrer les sciences en démocratie ». Il va y formuler une célèbre proposition, la proposition du Parlement des choses, ou Parlement des terrestres. Il s'agit de créer, il propose que l'on crée une instance démocratique où non-humains seraient représentés et auraient droit à la parole, droit à défendre leur existence et leurs intérêts propres face au rouleau compresseur de la machine capitaliste. Il s'agit de trouver le moyen d'établir des relations pacifiées entre les êtres qui partagent un même monde, humains et non-humains. Je vais sauter une quinzaine d'années. Bruno Latour est un scientifique très éclectique qui s'est intéressé à plein de choses, mais en 2015, il sort un ouvrage qui s'appelle « Face à Gaïa », qui va continuer le fil de sa réflexion. Gaïa, c'est un terme qui a été popularisé par un scientifique qui s'appelait James Lovelock, qui est décédé il y a quelques années, dans un livre qu'il avait écrit qui s'appelait « L'hypothèse Gaïa ». Ce terme désigne la Terre comme un organisme en permanente évolution par ses interactions avec les êtres vivants qui la peuplent. Bruno Latour, lui, va reprendre la logique de ses travaux précédents que je viens de présenter, et notamment la séparation nature-culture de la pensée moderne, qui est, explique-t-il, à l'origine du désastre écologique en cours. C'est cette séparation nature-culture, selon Bruno Latour, qui est à l'origine de ce désastre. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là, à la Renaissance, que l'on a remplacé le divin par la science, que l'on a expliqué, que l'on a disséqué le monde par la méthode scientifique, et que notre compréhension du monde s'est alors réduite à des interactions chimiques. On a fait de la nature une chose inerte. D'accord ? Bruno Latour nous demande donc dans Face à Gaïa de changer de regard, d'accepter le caractère vivant et non figé de la nature. Gaïa, pour lui, est un système fragile et complexe par lequel les phénomènes vivants modifient la Terre. Il s'en sert comme une métaphore d'une nature animée dont nous faisons partie intégralement, mais qui risque de nous détruire si nous persistons à nier notre impact négatif sur le vivant. Il relance alors sa proposition du Parlement des terrestres, que je viens de présenter, cette gigantesque assemblée qui réunirait des représentants des êtres humains, mais aussi des représentants des fleuves, des continents, des montagnes, des rivières, des océans, des forêts, des espèces animales, etc., etc. Il nous appelle à repenser la société en tenant compte des intérêts humains, des intérêts animaux, des intérêts minéraux, des intérêts aquatiques. Tout ça en écrivant une sorte de gigantesque contrat de copropriété. En 2017, 2 ans après Face à Gaïa, Bruno Latour publie « Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ?» Face à un monde globalisé, dérégulé, inégalitaire et en pleine mutation climatique, Bruno Latour pose la question du monde à inventer pour répondre à ces défis. Il trouve, et d'ailleurs c'est peut-être une raison pour laquelle la gauche radicale ne l'aime pas trop, il trouve que l'Europe est un espace assez pertinent pour entamer cette révolution. Il propose une méthode très concrète. La méthode, c'est... Commençons par décrire notre territoire, commençons par faire la liste totale, exhaustive de qui nous dépendons et de quoi nous dépendons pour vivre. Région par région, localité par localité. C'est le moyen pour ensuite travailler dessus concrètement. Ça, c'est rien d'autre que le modèle des cahiers de doléances de la Révolution française, en fait.
C'est vrai.
Il va chercher ses sources assez loin. En 2021, donc, il publie la suite de « Où atterrir ?», qui va s'appeler « Où suis-je ?». Et bon, alors bien sûr, il va intégrer les réflexions sur le confinement qui est passé par là, d'accord. Mais la question principale, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on prend conscience que notre survie dépend d'une zone minuscule, hein, notre atmosphère en quelque sorte, et puis un peu la Terre qui nous supporte, et que nous sommes en train d'endommager gravement cette zone, alors que nous n'avons rien d'autre pour vivre. On n'a pas d'alternative. On comprend aussi que l'idée que chacun vit dans un pays et dépend des ressources de ce pays est une illusion totale. En fait, en bons êtres vivants que nous sommes, nous dépendons tous les autres au-delà des frontières de nos pays. Personne ne peut s'enfermer derrière ces frontières. Que faire alors ? Bruno Latour espère l'avènement d'une classe écologique, une classe sociale écologique. Une nouvelle classe sociale qui montrerait à la classe bourgeoise ses limites, tout comme la classe bourgeoise avait montré à l'aristocratie ses limites au XIXe siècle. Aujourd'hui, la classe bourgeoise n'est plus rationnelle. Pour ceux qui voudraient avoir une illustration de cette affirmation, allez écouter toutes les interviews d'Aurélien Barreau sur YouTube. Il démontre de façon éblouissante le caractère totalement irrationnel de la pensée des classes dominantes actuelles, vis-à-vis de l'enjeu écologique. Cette classe écologique, donc, pour Bruno Latour, doit faire à son tour cet immense travail de redéfinition intellectuelle qu'avant eux ont fait le libéralisme et le socialisme. Sauf que la question n'est plus de produire et de partager des richesses, la question est de se focaliser sur tout ce qui englobe, tout ce qui entoure, tout ce qui permet la production et le partage de richesses. Et pour ça, Bruno Latour met en avant l'importance du travail collectif. Alors, son Parlement des choses, d'accord, mais aussi des expositions, des pièces de théâtre, l'aspect culturel. Tous ces outils permettent de solliciter beaucoup de personnes qui ont des vraies connaissances et permettent, par cette mise en commun, d'enrichir la réflexion. Il faut, nous dit Bruno Latour, créer des dispositifs, des collectifs, des écoles, un écosystème. L'ampleur de l'enjeu demande la collaboration de toutes les disciplines. Alors, je vais m'arrêter là, Mathieu. Mais je vais conclure en partant des travaux assez obscurs d'un philosophe, pas très connu en France, et pourtant français. Nous avons découvert par son cheminement de toute une vie, une analyse qui nous aide à comprendre notre monde, ses enjeux écologiques, et qui nous offre des pistes d'action concrètes. Alors bien sûr, son œuvre suscite le débat, hein, certains ont pointé des fragilités dans ses analyses, notamment la façon insuffisante dont il étudie, ou du moins n'étudie pas assez les rapports de force dans notre société, ok. Pour autant, je conseille à tous ceux qui seraient intéressés par ces questions de lire en priorité les 3 derniers ouvrages de Bruno Latour, Face à Gaïa, Où atterrir et Où suis-je. et de mettre en pratique, chacun de son côté, les conseils de Bruno Latour. L'enjeu demande la collaboration de tous.
C'est des bouquins épais.
Alors, Face à Gaïa, un petit peu, mais c'est une sorte d'extrait de conférence, donc c'est lisible. Et Où atterrir et où suis-je sont des livres très lisibles. Il les a écrits à destination du grand public. D'accord. Il a vraiment sciemment décidé de simplifier son écriture pour toucher le plus grand nombre.
Okay.
Donc c'est tout à fait lisible.
Très bien.
Je mettrai tous les liens dans le podcast, bien évidemment.
Parfait. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À très bientôt. Ciao.
Ensemble sur Calade.